Le fil secret.
Que peuvent bien se raconter de grands musiciens lorsqu'ils se croisent? Voici le fil secret de leur rencontre.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Cette semaine, penchons-nous sur une amitié inattendue, celle entre Johannes Brahms et Johann Strauss. Brahms, le romantique ténébreux, et Strauss, le compositeur de valses, de polkas et d'opérettes. Brahms, le musicien de l'intériorité, et Strauss, le symbole de la fête. Brahms, le nostalgique, et Strauss, le chantre de l'euphorie. Et pourtant, ces deux-là étaient les meilleurs amis du monde. Plus encore, chacun admirait les œuvres musicales de l'autre. Brahms était né à Hambourg en 1833. Dès l'âge de 20 ans, il fut repéré par son aîné Robert Schumann, qui vit en lui un nouveau Beethoven. À 30 ans, Brahms s'installe à Vienne, dont il devint au fil de ses œuvres l'oracle local. Cette position n'empiétait en rien sur celle de Johann Strauss, qualifié de son côté de roi de la valse. C'était un vrai Viennois, né en 1825. Son père était déjà un compositeur de valse réputé. Il ne voulait pas que son fils embrasse la carrière de musicien, carrière trop ingrate à son sens. Mais Johann Strauss, le fils, nourrissait une passion irrépressible pour la musique. Il fonda donc à 17 ans son propre orchestre, se mit à composer des valses et entra ainsi en compétition avec son père. Tout Vienne se passionna pour cette rivalité. Elle se termina en 1849 avec le décès du père. Johann Strauss, le fils, fusionna alors les deux orchestres et régna désormais sur la musique de divertissement. Sa réputation gagna rapidement toute l'Europe et les États-Unis. Brahms et Johann Strauss se voient régulièrement. Ils se montrent leurs travaux en cours, s'adonnent à des séances de piano, assistent à leurs concerts respectifs. Ils partagent aussi de bons repas et savourent ensemble des cigares dont l'un et l'autre sont très friands. Ils décédèrent à 2 ans d'intervalle, Brahms en 1897 et Strauss en 1899. En février 1867, Johann Strauss propose au public viennois une nouvelle valse, le Beau Danube bleu. C'est presque un échec, elle n'est pas bissée. Déçu, Strauss la laisse de côté et ne la reprend que quelques mois plus tard, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris. C'est alors un triomphe. Elle est redemandée 20 fois de suite. Elle s'impose ensuite dans le monde entier et à Vienne même devient l'archétype de la valse. Quelques années plus tard, la belle-fille de Johann Strauss rend visite à Brahms et lui demande une dédicace pour son album. Il griffonne alors les premières mesures du Beau Danube bleu et écrit à côté « Hélas, ce n'est pas du Brahms ». Brahms s'était pourtant intéressé à la valse, mais pas à la manière de son ami Strauss. Il ne s'agissait pas pour lui de faire danser les Viennois. Il composa, en 1865, une série de 16 petites valses pour piano à 4 mains. Elles obtinrent très vite du succès et connurent toutes sortes de transcriptions, en particulier la 15e, que vous connaissez certainement et que voici sous les doigts de Bruno Leonardo Gelbert. Brahms employa également le rythme tournoyant de la valse dans des œuvres vocales, les Liebeslieder-Walzer. On pourrait traduire ce titre par « Chant d'amour en forme de valse ». Ce sont deux séries de respectivement 18 et 15 mélodies pour un quatuor vocal, c'est-à-dire une soprano, une alto, un ténor et une basse, accompagnées par un piano à quatre mains. Elles sont souvent interprétées par un chœur. L'ensemble constitue près d'une heure de musique. Brahms composa la première série en 1869 et la seconde en 1874. Voici maintenant 7 des 18 mélodies de la première série. Tout en restant fidèle aux irrésistibles trois temps de la valse, elle présente une grande variété de tons, tour à tour contemplatifs, énergiques ou nonchalants. Ces mélodies sont interprétées maintenant par l'ensemble Michel Picmal.
Oh! mein kleiner Hübschelvogel nahm den Floh zum Garten hin, da gab es uns ein Glück.
Hübschelkleiner Vogel, wenn ich so vergift, ich hätte so wie du.
Mein Lodern war nicht Lodern gebaut, ihr alle Vogel und nicht mehr fort. Mein Lodern war nicht Lodern gebaut, ihr alle Vogel und hört nicht mehr fort.
Nicht fort,
nicht fort,
nicht fort,
nicht fort,
nicht fort.
Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht.
Eiserne Ringe sind vor uns.
Pouvions-nous dans cette chronique faire l'impasse sur le beau Danube bleu ? Certainement pas. Voici donc cette valse, la valse par excellence. Eugène Ormandy est à la tête de l'orchestre de Philadelphie. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.